Bonjour et bienvenue sur Radio Évasion. Nous vous partageons ici une lecture du livre « Comment la police interroge et comment s'en défendre », écrit et publié par le projet Évasion. Le livre est découpé en 6 chapitres, il y a donc 6 épisodes. Pour une meilleure compréhension, nous vous conseillons de les écouter dans l'ordre. Le livre n'est plus en stock chez nous, mais une version PDF est disponible librement sur notre site www.projet-evasion.org. Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire à evasion@riseup.net, evasion E-V-A-S-I-O-N-S, @riseup.net, R-I-S-E-U-P.net. Un grand merci pour l'enregistrement et bonne écoute.
Se défendre. Après avoir examiné les différents angles d'attaque que la police utilise pour mener des interrogatoires, ce chapitre s'intéresse aux pistes et outils pour se défendre.
Chapitre 15. Le piège du mensonge. Face à une accusation, trois types de réactions sont possibles. Premièrement, reconnaître et accepter l'accusation, soit en partie, soit dans sa totalité. Deuxièmement, nier, soit en mentant si l'on est accusé à raison, soit en se justifiant si l'on est accusé à tort. Troisièmement, refuser de se prononcer et garder le silence.
Le mensonge peut être vu comme un mécanisme de défense instinctif face à une accusation. Il est en tout cas perçu par la police comme le mécanisme de défense le plus répandu. Mentir, c'est pourtant se mesurer aux inspecteurs-inspectrices sur leur propre terrain, puisque l'on accepte la discussion. C'est être d'accord avec tous les risques que cela comprend, de se battre selon des règles que l'on n'a pas définies soi-même. Apprendre à mentir demande beaucoup d'efforts, surtout lorsque tu es mise sous pression et pas préparée à ce qui t'arrive. Mentir, c'est inventer une histoire cohérente en accord avec les éléments déjà trouvés par la police, et dont tu ignores l'existence. Cela nécessite une grande imagination, une forte maîtrise de soi et une très bonne mémoire, surtout lorsqu'il s'agit de réexpliquer exactement la même histoire une journée ou un mois plus tard sans commettre d'erreur et sans avoir pu prendre des notes. Dans les académies de police, les futurs enquêteurs-enquêtrices s'entraînent à contrer le mensonge, mais également à l'exploiter contre la personne qui l'utilise. À travers le langage non-verbal, ils apprennent à reconnaître les signaux corporels d'une personne qui ment. Dans la stratégie du sable mouvant, ils vont jusqu'à pousser la personne interrogée à mentir pour ensuite la déstabiliser en lui faisant comprendre qu'elles ont détecté les mensonges et que la personne ne sera plus crédible pour la suite. Lors de leur formation, différents jeux sont utilisés par les policiers-policières pour s'entraîner à détecter le mensonge. En voici deux exemples.
Premièrement, deux personnes mènent une discussion. Chaque personne a une thématique qu'elle ne doit pas aborder. Durant la discussion, elle doit trouver le thème que l'autre veut dissimuler et empêcher que son propre thème sensible ne soit découvert. Ce jeu permet de s'entraîner à détecter à quel moment une personne essaie de dissimuler une partie de la vérité ou à esquiver une thématique précise. Deuxièmement, plusieurs personnes sont assises autour d'un tas de cartes. Certaines cartes ont une image, d'autres uniquement un point d'interrogation. À tour de rôle, chaque personne tire une carte sans la montrer aux autres. Si la carte possède une image, elle devra être décrite. Si la carte comporte un point d'interrogation, l'objectif est de décrire une image tout en dissimulant qu'elle est inventée à l'instant même. Les autres personnes doivent deviner si la personne décrit une image existante ou non.
Une version de ce jeu a été adaptée par nos soins afin de créer un outil ludique et pédagogique pour démontrer la difficulté de mentir dans une situation d'interrogatoire. Face à l'entraînement des inspecteurs-inspectrices et au contexte difficile dans lequel se place l'interrogatoire, je ne recommande pas le mensonge comme stratégie de défense. Cela me paraît être une prise de risque inutile pour soi et pour les autres, ainsi qu'une stratégie inefficace.
Chapitre 16. Les fausses croyances qui poussent à la collaboration.
Lors des ateliers d'autodéfense face à la police que je donne, j'ai rencontré toutes sortes de fausses croyances sur le fait de refuser de faire des déclarations dans un interrogatoire. Dans ce chapitre, j'explique pourquoi je considère ces avis comme de faux amis.
Sous-chapitre 1. Je suis obligé de répondre aux questions de la police.
J'ai souvent entendu cette phrase qui semble être une croyance profondément ancrée dans l'imaginaire collectif. Je m'explique cela de trois façons. La position d'autorité dont bénéficie la police dans nos sociétés, la pensée qu'il existe une obligation légale de répondre aux questions de la police, et l'imaginaire véhiculé par la culture fictionnelle occidentale. Voyons cela dans le détail. Autorité policière. Dans nos démocraties autoritaires, nous sommes habitués depuis notre plus jeune âge aux figures d'autorité et à leur montrer du respect et de l'obéissance. Nos parents, les professeurs, les médecins et les spécialistes en tout genre. La notion d'autorité est rendue totalement banale et on nous inculque plus profondément l'obéissance à l'autorité que la remise en question et la pensée critique. La police et les uniformes en général procurent un sentiment d'autorité morale, de supériorité légitime. Cette construction culturelle et sociale donne l'impression inconsciente que lorsqu'un ou une policier ou policière te pose une question, tu dois y répondre et que sinon tu te feras gronder, tout comme quand tu refusais de répondre à tes parents ou à tes professeurs. Considérons cela avec un peu de recul. Selon moi, nous sommes tous et toutes légitimes de vivre nos vies comme nous l'entendons, en pleine liberté de nos choix. Cependant, nous sommes soumises à toute une série de constructions sociales, de contraintes et de normes. Reconnaître ces figures d'autorité et les normes sociales qui y sont liées, ainsi que se reconnaître la légitimité d'être maître, maîtresse de sa vie, sont les premiers pas utiles pour leur transgression. Une transgression souvent difficile, inégale selon notre statut dans la société, et non sans conséquences, mais néanmoins porteuse d'émancipation. Et en ce qui concerne la figure d'autorité policière, la transgression de cette dernière est un outil de défense des plus nécessaires lors d'un interrogatoire. Reconnaître les figures d'autorité et les normes sociales sont les premiers pas utiles pour leur transgression. Obligation légale. Dans la majorité des juridictions, refuser de répondre aux questions de la police en tant que prévenu n'est pas punissable légalement. Refuser de s'exprimer est un droit donné par le cadre légal et ne peut juridiquement être retenu contre toi. Selon les pays, tu as néanmoins l'obligation légale de donner certaines informations spécifiques permettant un contrôle d'identité. Nom complet, adresse, date de naissance, nationalité, profession, etc. Si, lors d'un procès, tu décides de maintenir la stratégie du silence, une juge peut bien sûr t'en vouloir de ne répondre à aucune de ces questions, et ce sentiment risque d'influencer sa sentence. Là-dessus, tu n'as aucune emprise. Mais dès le moment où cet élément est présenté comme un fait incriminant et justifiant la condamnation, cela sort du cadre légal et tes avocates auront une très bonne base pour faire appel au jugement. Imaginaire fictionnel. Les enquêtes policières inspirent de nombreux films, séries, bandes dessinées, pièces de théâtre, etc. Nous sommes grandement divertis par le travail d'enquête des inspecteurs inspectrices. Même si la plupart d'entre nous n'a jamais vécu d'interrogatoire, tout le monde a une idée et une image mentale de ce à quoi cela ressemble. Depuis que je m'intéresse au sujet des techniques d'interrogatoire, je regarde les fictions policières d'un autre œil. Une chose me frappe, c'est de remarquer à quel point c'est rare qu'on nous présente des suspects qui refusent de collaborer avec la police. Jamais encore je n'ai vu ou lu un « je n'ai rien à déclarer » comme posture principale de défense face à un interrogatoire dans un roman policier ou une série policière. Quand une personne exprime son refus de répondre, soit elle attend son avocate pour le faire, soit elle finit par répondre suite à la pression des inspecteurs-inspectrices. Et ça se comprend très bien. Pour produire une fiction policière un tant soit peu intéressante, il faut que l'enquête avance, qu'il y a un dénouement dans l'histoire à travers l'arrivée de nouveaux éléments. En tant que spectateur, spectatrice, nous avons des intérêts convergents avec les enquêteurs, enquêtrices. On veut que l'enquête avance. Il faut donc que les éléments fictionnels arrivent les uns après les autres, en grande partie au travers des auditions et interrogatoires menés par les inspecteurs, inspectrices d'Éric et Julie Lescaut. Voilà l'image que nous renvoient les fictions policières. Un interrogatoire se compose d'un ou d'une flic qui pose des questions et d'un ou une prévenue qui y répond. Un acte de résistance sera peut-être représenté par la tentative d'un mensonge, mais en tout cas pas par un silence obstiné. Dans le cadre des fictions, plusieurs ouvrages sont à mes yeux intéressants à analyser, autant pour la manière de présenter des interrogatoires que pour les réactions des personnes interrogées. Bien sûr, cela reste fictionnel, mais en gardant un esprit critique, la lecture de ces fictions peut aider à visualiser d'une manière plus ou moins réaliste différentes techniques d'interrogatoire spécifiques. Crocodile im Nacken, Klaus Gordon, livre disponible uniquement en allemand. Les Anonymes, de Pierre Scheller. Impossible, Eric De Luca. L'interrogatoire, de Vladimir Volkov. Exercice pratique. Les prochaines fois que tu regardes ou que tu lis une fiction policière, un exercice intéressant est de se poser les trois questions suivantes. 1. Est-ce que des réponses ont été fournies aux questions des inspecteurs-inspectrices lors des interrogatoires? 2. Est-ce que ces réponses ont permis à la police d'avancer dans l'enquête, de découvrir de nouveaux éléments ou de formuler de nouvelles hypothèses? 3. Est-ce que l'enquête aurait évolué si cette information n'avait pas été relevée?
Sous-chapitre 2. Si je ne parle pas, j'aurai l'air louche.
Si vous ne voulez pas répondre à nos questions, c'est que vous avez quelque chose à gâcher. Seuls les criminels endurcis refusent de répondre à nos questions. C'est le genre d'argument que les policiers-policières apprennent à présenter aux personnes qui refusent de faire des déclarations. Personne ne veut avoir l'air suspect. En avoir l'air, c'est déjà quasiment être coupable, non? Non, c'est sensiblement différent. Et puis, avoir l'air suspect aux yeux de qui? C'est souvent face aux inspecteurs, inspectrices que l'on souhaite avoir l'air innocent. Pourtant, ce ne sont pas eux et elles qui posent un jugement, mais les juges. Avoir l'air suspect n'est pas une preuve légale, ni même un élément de preuve. Le paradoxe, en ne voulant pas avoir l'air suspect, c'est de se justifier et donc fournir des informations qui serviront à nous condamner. Mettre l'accent sur le besoin de justification que tu peux ressentir est une stratégie policière courante.
Sous-chapitre 3. Plutôt que le silence, c'est mentir qui va me tirer d'affaire.
Les policiers et policières sont entraînés à détecter les mensonges ou les questions qui mettent dans l'embarras. Rester crédible tout en mentant demande une grande capacité de concentration, une très bonne mémoire, beaucoup d'imagination et une forte vivacité d'esprit. Tu dois pouvoir redire exactement le même mensonge au détail après plusieurs heures, jours, mois plus tard. De plus, tant que tu es dans les locaux de la police, tu ne sais pas quels éléments te concernant se trouvent dans le dossier d'enquête, quels indices il et elle ont recueillis sur le terrain. Une des stratégies des flics consiste justement à te pousser sciemment à dire le plus d'affirmations mensongères et à te couler par la suite en te confrontant à la preuve de ton mensonge. Une réponse entraîne toujours une nouvelle question.
Sous-chapitre 4. Je n'ai rien à me reprocher.
Et les autres? Tes amis? Peut-être que la raison pour laquelle tu as été convoqué et que la police cherche des informations sur une de tes connaissances plutôt que sur toi. Certaines personnes disent vouloir faire des déclarations uniquement sur elles-mêmes et ne rien dire qui impliquerait autrui. Or, dans une investigation judiciaire, il n'y a pas de place pour différentes histoires personnelles ou pour mon histoire à moi. Il n'y a que des éléments séparés mais reliés entre eux qui donnent une image globale. Par addition ou par élimination, chaque information que reçoivent les inspecteurs-inspectrices est une pièce du puzzle leur permettant d'avoir une image plus complète et claire des faits. En tant que personne auditionnée, tu n'es pas en mesure de savoir ce qui intéresse la police, ce qu'ils et elles pourront utiliser, comment et contre qui. Même si tu ne souhaites compromettre personne d'autre à travers tes déclarations, ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Finalement, même si tu n'as rien à te reprocher, ton procès-verbal sera enregistré et permettra aux agentes de police de mieux te connaître la prochaine fois que tu passeras dans leur bureau.
Sous-chapitre 5. Les flics arrêteront de me mettre la pression si je parle au moins un peu.
Cette pensée est compréhensible. On l'a vu plus haut, la liste des moyens de pression qu'ont les policiers et policières est longue, surtout en situation de tension. Et le chantage fait partie de leur arsenal de manipulation. Plus vite tu nous diras tout, et plus vite tu pourras rentrer chez toi. Dans les faits, c'est pourtant souvent l'inverse qui est vrai. Si tu commences à parler, tu donnes le signal d'une ouverture dans laquelle les inspecteurs-inspectrices vont se jeter à corps perdu jusqu'à ce qu'ils et elles soient satisfaites du résultat. C'est aussi leur montrer que les moyens de pression dont ils et elles disposent fonctionnent sur toi. Pourquoi alors arrêter si cela montre des résultats positifs? Plutôt que de subir moins de pression, tu vas être pressé comme un citron.
Chapitre 17. Se protéger par le silence.
Rappelons le contexte dans lequel tu es placé lorsque tu vis une situation d'interrogatoire. Tu ne possèdes que des éléments lacunaires sur l'enquête qui te concerne et sur les éléments que la police détient. Tu vis un moment inhabituel et stressant. Tu es dans l'incertitude de ce qui va t'arriver. Si tu es mis en détention, tu subis toute une série de pressions supplémentaires dues à tes conditions d'emprisonnement et à la privation de liberté. En face de toi, tu as des personnes entraînées à des techniques de manipulation poussées, fortes d'une expérience professionnelle en la matière et d'une connaissance plus ou moins large de ton profil. L'ensemble des stratégies et techniques de la police ont un point commun. Pour atteindre leurs objectifs, la participation de la personne interrogée est nécessaire, voire essentielle. Cet élément constitue la meilleure défense que tu possèdes. Si tu refuses cette collaboration, tu détruis les armes que la police pourrait utiliser contre toi. Ne leur offrir rien d'autre qu'un impassible « je ne souhaite pas faire de déclaration » signifie ne pas leur offrir d'emprise sur toi. D'autre part, garder le silence évite de nourrir le dossier d'enquête avec tes déclarations vraies ou fausses. On ne met personne en danger, ni autrui, ni soi-même. Pour tenir au mieux cet axe de défense, le plus simple est d'utiliser la stratégie du disque rayé. Cela consiste à répéter avec un volume toujours identique, non croissant, ta décision de ne pas faire de déclaration, sans te justifier davantage, avec à chaque fois pratiquement les mêmes termes. Cela permet de marquer ta fermeté en restant toujours dans le même état émotionnel. Je ne souhaite pas faire de déclaration. Je ne souhaite pas faire de déclaration. Je ne souhaite pas faire de déclaration. Plus tôt tu exprimes pour la première fois ta volonté de garder le silence, plus il sera facile de s'y tenir. Les inspecteurs-inspectrices vont essayer de te pousser à changer de stratégie de défense, notamment en te culpabilisant de ne pas répondre, ou en essayant de te faire croire que ton silence donne une image suspecte de toi et que cela jouera en ta défaveur. Après l'interrogatoire, si l'affaire est transmise à un ou une juge, tu auras l'occasion de prendre connaissance du dossier d'enquête et ainsi des éléments que la police a rassemblés contre toi. Tu pourras aussi t'entretenir avec un ou une avocate et te faire conseiller sur la meilleure manière de te protéger. Si tu choisis de faire des déclarations lors du procès, tu pourras les faire en connaissance de cause, avec un risque nettement plus petit de te mettre dans l'embarras. Le silence est de loin la stratégie de défense la plus efficace et la moins dangereuse.
Sous-chapitre 1. Un peu d'histoire.
Carl Victor Haas est né le 23 novembre 1834 à Iéna, en Allemagne. À 19 ans, il commence ses études de droit à Heidelberg, où il est condamné à 6 jours de prison pour avoir contredit un religieux. Plus tard, l'un de ses amis étudiants tue un autre étudiant lors d'un duel qui tourne mal. Carl Victor Haas lui donne son passeport pour lui permettre de passer en France. Après le passage de la frontière, son ami jette le passeport qui finit par être retrouvé et renvoyé aux autorités locales de Heidelberg. Carl Victor, désormais juriste, est soupçonné de complicité de fuite et interrogé. Lors de son audition, il répète en boucle « Mein Name ist Haase. Ich verneine alle Generalfragen, ich weiß von nicht. » Mon nom est Haas. Je refuse de répondre aux questions. Je ne suis au courant de rien. » Cela ne permit pas aux enquêteurs de distinguer la vérité parmi les différentes hypothèses. Haas est complice et a donné volontairement son passeport. Haas a perdu son passeport que son ami a trouvé et utilisé pour fuir. Haas s'est fait voler son passeport par son ami duelliste. Une fois Haas acquitté, faute de preuves, la phrase « Mein Name ist Haas, ich verneine alle Generalfragen, ich weiß von nicht » fait rapidement le tour des universités en droit d'Allemagne et des Pays-Bas. Raccourci en « Mein Name ist Haas, ich weiß von nicht »« Mon nom est Haas, je ne suis au courant de rien », elle conceptualise la défense juridique que représente le fait de garder le silence face à l'accusation. Jusqu'à aujourd'hui, cette phrase est restée célèbre dans la culture générale germanophone, reprise notamment comme expression populaire, ainsi que dans des chansons. Carl Victor Haas, quant à lui, devint finalement docteur en droit à l'université de Jena. Il fallut attendre 1966 pour que le droit au silence soit ancré par l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Plus tard, la Cour européenne des droits de l'homme reprend ce droit comme fondamental et le place au cœur de la notion de procès équitable. Selon la Cour en question, accorder un droit au silence permet d'éviter l'obtention d'éléments de preuve sous la contrainte ou la pression et permet ainsi l'évitement d'erreurs judiciaires. L'histoire nous montre que l'évitement d'erreurs judiciaires n'a pas été atteint.
Sous-chapitre 2 : Contre-techniques policières.
Alors que les techniques d'interrogatoire sont décrites en long et en large dans les manuels policiers, je n'ai eu l'occasion de parcourir qu'un très faible nombre de conseils à utiliser face à des personnes refusant la discussion. J'interprète cela de manière très positive. J'en déduis que les moyens leur manquent pour contrer la stratégie du silence de manière efficace. Voyons tout de même les maigres pistes qu'ils, elles, mettent en avant.
1. Les policiers et policières vont argumenter avec la personne interrogée sur les raisons qui la poussent à ne pas vouloir répondre. Ils, elles, vont lui certifier que c'est tout à fait son bon droit de refuser de faire des déclarations, mais que par curiosité ou afin de le poser dans le procès-verbal, ils, elles, aimeraient savoir pourquoi. Si la personne répond, la discussion va continuer et petit à petit conduire vers les questions. C'est un mix entre la stratégie de l'entonnoir et celle de l'engagement. Ce qu'il faut retenir ici, c'est de ne pas se justifier sur les raisons qui te poussent à refuser de leur répondre, puisque cela représente déjà une forme de réponse et contient le risque de te faire glisser dans la discussion. 2. Socialement, le silence met mal à l'aise, surtout dans une discussion à plusieurs. Les enquêteurs-enquêtrices peuvent jouer là-dessus en laissant un vide et en te fixant après que tu aies déclaré ne pas vouloir répondre à leurs questions. L'idée est de te mettre mal à l'aise pour te pousser à répondre. Si cela te déstabilise, rien ne t'empêche de laisser vagabonder ton imagination pour t'extraire de cet instant en pensant à des beaux moments que tu as vécus ou que tu aimerais vivre. 3. Une stratégie très répandue est que les policiers-policières acceptent ton refus de répondre à leurs questions, mais vont néanmoins te lire toutes leurs questions en te demandant de répéter à chaque question que tu ne souhaites pas y répondre. L'idée ici est de créer une envie de justification en te lisant des questions très dirigées et suggestives. Ne te laisse pas faire. Déclarer une seule fois « je ne souhaite pas répondre à vos questions » est totalement suffisant. Reste stoïque et silencieuse, jusqu'à ce qu'elle se lasse d'attendre et te laisse tranquille. 4. La police tente également souvent d'intimider la personne interrogée en lui faisant croire que le fait de refuser de s'exprimer sera retenu contre elle lors d'un éventuel procès. Dans ce cas, souviens-toi que le refus de s'exprimer est un droit juridique. 5. Évidemment, l'utilisation de la violence physique à ton encontre est en principe bannie dans le cadre des manuels auxquels je fais référence. C'est pourquoi il n'en est pas fait mention ici. Ceci dit, on sait tous et toutes que cela arrive fréquemment et que même au cœur du cadre légal qui devrait être le leur, les policiers-policières vont parfois se lâcher.
L'exception qui confirme la règle. Comme toute règle, celle du silence comporte une exception qui la confirme. Il s'agit du cas spécifique des contrôles de routine. Prenons l'exemple d'un contrôle de routine par des douaniers-douanières dans un train traversant une frontière. Les douaniers-douanières passent à travers le train pour faire leur contrôle. Leur objectif est d'interpeller les personnes sans titre de séjour valable ou transportant des marchandises illégales. Les gardes-frontières n'ont ni le temps ni les ressources de s'arrêter à chaque personne pour faire un contrôle d'identité, et encore moins pour vérifier les bagages. Pour travailler, elles utilisent des filtres pour faire un tri. Le premier filtre est le tristement connu contrôle au faciès, aussi appelé racial profiling. Le racial profiling, ou profilage ethnique, désigne le comportement discriminatoire de la police à l'égard d'un individu ou d'un groupe d'individus, en fonction de ses origines raciales ou religieuses, réelles ou perçues. C'est un terme synonyme du contrôle au faciès, mais qui met en lumière le côté intrinsèquement raciste de cette pratique. Vont être ciblés les jeunes, les personnes non blanches, pauvres et seules. Bref, tout ce qui s'éloigne de la norme blanche et bourgeoise. Pourtant, même avec ce premier filtre, il reste toujours trop de personnes pour un contrôle approfondi. Le deuxième filtre est justement ce qui est appelé contrôle de routine. Les douaniers-douanières s'arrêtent quelques instants et te posent 3-4 questions à l'aspect totalement banal. D'où venez-vous ? Vous étiez en voyage professionnel ou de tourisme ? Vous allez où ? Et ainsi de suite. À moins que tu ne te contredises toi-même, les réponses ne sont pas réellement importantes. C'est la manière dont tu réponds qui est observée. Est-ce que tu sembles nerveux-nerveuse ? Quel est ton langage corporel ? Est-ce que tu hésites avant de répondre ? Est-ce que tes mains tremblent ? Tout comme elles le font lors d'un interrogatoire, les policiers-policières essaient de détecter si tu leur mens, si tu leur caches quelque chose ou si des sujets sensibles sont abordés. Si c'est le cas, le contrôle va s'approfondir, tes papiers et bagages vont être vérifiés et tu vas être interrogé avec plus de précision. Ces pratiques ont aussi lieu lors de contrôles routiers ou aux abords de manifestations. Si dans une telle situation tu réponds « je n'ai rien à déclarer et je fais usage de mon droit au silence » à la première question qui t'est posée, il y a de fortes chances que tu finisses au poste de police pour un contrôle approfondi. Cette forme de contact avec les forces de l'ordre est un moment très particulier. Tu n'es déjà plus totalement libre et tu réponds sous contrainte. Mais tu n'es pas non plus arrêté ou prévenu dans une enquête. L'enjeu est de rester calme et de répondre le strict minimum. Dans ma valise ? Oh, des vêtements sales et des livres. Oui, je suis allé rendre visite à des amis, là je rentre chez moi. Si tu te sens acculé et que les questions deviennent trop précises, endosse ta carapace de protection. Je ne souhaite pas faire d'autres déclarations.
Chapitre 18. Défense mentale. Sous-chapitre 1. Atténuer les sources de stress.
Être confronté à une procédure judiciaire, un interrogatoire et ou une garde à vue peut causer un stress qui va fragiliser ta capacité d'autodéfense mentale. les inspecteurs, inspectrices en sont tout à fait conscientes et vont chercher à accentuer ce phénomène. Heureusement, certaines sources de stress peuvent être anticipées. Je distingue deux sources de stress. Stress provenant de l'intérieur. Il s'agit de la pression provoquée par les conditions du moment même de la procédure judiciaire, en première ligne, due à l'impact de la logistique de l'enfermement. Ai-je la possibilité d'aller aux toilettes librement si j'en ai besoin? Est-ce que je m'ennuie? Ai-je froid ou chaud? Ai-je accès à mes médicaments ou à mes protections hygiéniques? Suis-je confronté à des oppressions systémiques comme le racisme, l'antisémitisme ou la transphobie? Les menaces et l'hostilité des policiers et policières présentes peuvent également être des sources de stress. Stress provenant de l'extérieur. Ces sources de stress font partie du monde extérieur au moment présent de la détention interrogatoire. Tu penses au fait que tes proches au dehors s'inquiètent pour toi, de ce que la police possède déjà comme information ou risque de trouver dans l'enquête à venir, et de comment se portent les amis dont tu n'as plus de nouvelles. Tu te fais du souci à propos de la peine pénale encourue, de l'opinion que les gens se feront de toi si tu es condamné. Les inspecteurs, inspectrices, savent alimenter cette source de stress. En glissant des insinuations, ils, elles, créent le doute en toi. Ils, elles, savent que lorsque tu seras à nouveau en cellule, tu repasseras tout l'interrogatoire dans ta tête, phrase par phrase, et espèrent ainsi influencer tes réflexions et prises de décision. D'un côté, il y a donc tout ce à quoi tu es directement confronté et qui te cause de l'embarras, du stress et de l'anxiété. Il s'agit de faits que tu vis dans l'instant présent. De l'autre côté, les sources de stress extérieures à la situation présente sont hors de ton emprise. Ce qui te stresse, c'est un cercle vicieux de prise de tête, d'anticipation, d'hypothèses et de projection de ce qui se passe dehors et de ce qui va se passer dans ton avenir proche. Mon conseil est de dissocier ces deux stress. Prends le temps de réfléchir aux sources de stress auxquelles tu es directement confronté et essaie d'y chercher des réponses à ta portée. La solitude te pèse? Peut-être qu'écrire des lettres à tes proches peut t'aider à te sentir moins seul. Même si tu n'as pas la possibilité d'envoyer des lettres car cela t'est interdit, rien ne t'empêche d'écrire une lettre à l'attention d'une personne de ton choix. C'est un agréable moyen de passer le temps et de créer une connexion mentale avec une personne éloignée. L'attitude menaçante des policiers t'angoisse ? Rappelle-toi que leur pouvoir est limité et qu'elles essaient sciemment de t'intimider. La situation de l'interrogatoire t'angoisse ? Invente-toi une histoire ou rappelle-toi un souvenir positif pour distraire ton cerveau et te permettre de penser à autre chose. Prends le temps de comprendre ce qui est une source de stress et comment la minimiser. Peut-être qu'il te faudra essayer plusieurs stratégies avant de trouver la bonne. Quant aux éléments sur lesquels tu n'as pas d'emprise, laisse-les glisser sur toi comme des gouttes d'eau. Lorsque tu es en détention ou en interrogatoire, ce n'est clairement pas le moment adéquat pour t'y confronter. Économise ton énergie pour ce qui touche ton présent, et laisse le futur à plus tard. Tu auras le temps pour te préparer à ton procès et aux conséquences juridiques, pour affronter le regard des autres, pour réparer ce qui doit l'être, pour prendre soin de toi, de tes proches, des victimes de l'affaire, et pour faire ton autocritique. En ce moment, ce qui compte, c'est de faire face aux policiers et policières qui cherchent les failles dans tes axes de défense. Pour ne pas se laisser envahir par des pensées anxiogènes, il est bon de ne leur accorder qu'une place restreinte. Par exemple, fixe une heure par jour que tu dédies à te confronter et à réfléchir à tous les éléments extérieurs qui te pèsent et te mettent la pression. Ouvre la boîte et observe ce qu'il y a dedans. Réfléchis à ce que tu risques sur le plan légal, social, à comment se portent tes proches, aux conséquences qu'aura ton absence à l'extérieur, à comment réparer la souffrance que tu as peut-être engendrée chez d'autres. Accueille les émotions que ces questions provoquent en toi. Autorise-toi à les ressentir. Ça fera peut-être mal et ce sera difficile. Tu pourras te sentir perdu. Néanmoins, les sentiments aiment être entendus et c'est la meilleure voie pour apprendre à les gérer d'une manière constructive et de réduire l'emprise négative qu'ils peuvent avoir sur toi. Pour te confronter à toutes ces thématiques anxiogènes, tu peux noter les hypothèses de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait se passer dehors. Certaines hypothèses très optimistes, certaines très pessimistes. Ensuite, compare-les et écoute les émotions qui en ressortent. Est-ce que tu trouves ces scénarios réalistes? Qu'est-ce que tu peux faire pour les influencer? À la fin du temps imparti, referme la boîte, fais le vide dans ta tête et pense à autre chose. Un petit rituel peut t'aider à repasser dans le moment présent. Par exemple, faire une session de sport, lire un chapitre d'un livre ou écrire tes réflexions. Puis ferme ton esprit le plus hermétiquement possible à toute insinuation provenant des inspecteurs-inspectrices. Lorsqu'elle évoque un sujet qui angoisse, laisse-le glisser sur toi et concentre-toi sur autre chose. Tu y réfléchiras lors du prochain moment de temps dédié à ces questions. De cette manière, tu réduis considérablement l'emprise que peuvent avoir les enquêteurs-enquêtrices sur toi lorsqu'elles essaient de te mettre la pression au travers de sujets qui t'angoissent. Si tu nies ta peur ou toute autre émotion difficile, tu refuses l'occasion de faire preuve de bienveillance envers toi-même et de t'offrir le soutien et le réconfort dont tu as besoin. Dans l'imaginaire patriarcal, la force nous est présentée comme une valeur virile qui exclurait la faiblesse. Serait forte la personne qui ne ressent aucune peur et ne possède aucune vulnérabilité. L'intériorisation de ce système de valeurs amène beaucoup de gens à cacher leur peur, à eux-mêmes ainsi qu'aux autres, et par conséquent, à en empêcher une gestion efficace. Les courants féministes, entre autres, nous proposent une autre grille de lecture. Nous sommes toutes et tous vulnérables, et tout le monde possède des fragilités. La force réside dans le fait de les accueillir et de vivre avec, sans les laisser nous dominer. Si tu refuses d'entendre tes peurs et tes craintes, tes émotions prendront un chemin détourné pour se manifester et surgir sous la forme d'une colère intense, un comportement irrationnel, de terribles angoisses ou de crises de larmes. Ne reste pas seul et isolé face à la menace d'une arrestation. Sans entrer dans les détails compromettants, tu peux thématiser ce risque avec tes proches. Se préparer en amont, collectivement, à une éventuelle arrestation ou à une garde à vue aide à vivre ce moment plus sereinement.
Plus tu en auras discuté, plus tu auras réfléchi à quoi faire en cas de pépin, moins tu auras à t'inquiéter pour ce qui se passe dehors.
Laisse des indications concrètes à tes amis sur comment agir, qui avertir, famille, employeur, et quoi communiquer, où aller arroser des plantes ou nourrir un chat, quelle avocate contacter, et ainsi de suite. Une manière sécurisée et efficace pour transmettre ces informations est de les transmettre à la personne de confiance sur une clé USB cryptée.
Sous-chapitre 2, distanciation avec la police.
On l'a vu, plusieurs stratégies de manipulation se construisent sur un lien émotionnel et humain entre les policiers, policières et toi. Plus ce lien est fort, plus il est possible de l'utiliser comme levier pour te culpabiliser, te rassurer, t'inquiéter, te critiquer, te faire espérer, accaparer ton attention, donc influencer tes émotions. En bref. Pour contrer cela, rappelle-toi l'asymétrie de la situation. D'un côté, toi, prévenu dans une procédure où l'État enquête sur toi pour décider de ta culpabilité, enfermé et mis sous pression par la police. De l'autre côté, des policiers et policières qui font leur travail routinier de fonctionnaires. Des personnes dans ta situation, elles en voient passer des centaines, à qui elles essayent de montrer une attitude compréhensive et attentionnée pour créer un phénomène d'attachement. Elles te font des faveurs, c'est qu'elles ont d'abord ruiné ta journée, à tel point que recevoir une bouteille d'eau ou un café engendre chez toi de la reconnaissance. Pourtant, c'est bien leur responsabilité si tu n'as pas la possibilité d'être tranquillement chez toi en train de boire ton café en lisant un livre. Refuser de se laisser engager dans une discussion avec eux, elles, est un moyen très efficace de maintenir une distanciation émotionnelle entre toi et les inspecteurs-inspectrices. Une règle d'or pour se protéger de tout type de manipulation consiste à ne considérer aucune critique de la part d'une manipulateur-manipulatrice comme digne de réflexion. Si ton comportement ou tes actes dérangent ton entourage, écoute les critiques de ceux-celles qui te veulent du bien. Les critiques et autocritiques, lorsqu'elles sont constructives et honnêtes, nous font grandir et évoluer. Cela nécessite néanmoins un cadre non coercitif où les personnes critiquées et celles qui font la critique sont sur un pied d'égalité. Les policiers et policières ne sont pas concernés par qui tu es, ce que tu souhaites, ce qui est important pour toi et tes sensibilités. Ils, elles, ont leur propre agenda et intérêts qui n'ont pas de lien avec ta personne. Les inspecteurs, inspectrices peuvent te dire qu'ils, elles, te veulent du bien, qu'ils, elles, font ça pour toi, mais qui t'a enfermé dans cette pièce qui te menace et te met la pression. Parole de flic. Ça m'est arrivé de repartir à 22h parce que je sentais que la personne avait envie de se confier. La journée, beaucoup d'animation, beaucoup de monde, beaucoup de bruit, etc. À 22h, je sors de la garde à vue, je lui offre un café et on discute. Je suis son psy. Et j'obtiens des aveux, on en discute enfin pour de bon.
Sous-chapitre 3. Garder le pouvoir de décision.
Un effet direct de la garde à vue ou de la détention préventive est d'être dépossédé de son pouvoir de décision. Tu ne décides plus quand tu manges, quand tu as des interactions sociales, quand la lumière dans la cellule est allumée ou éteinte, qui tu vois ou si tu auras de quoi lire. Ce sentiment est difficile à gérer. Il est particulièrement dangereux lorsqu'il se reporte dans l'interrogatoire et donne l'impression inconsciente que puisque tu n'as plus de pouvoir de décision dans ton quotidien, il ne t'est pas non plus possible de refuser de collaborer avec la police. Une manière de résister à cet effet est de se créer, tant bien que mal, une structure journalière. Décide en début de journée comment tu vas occuper ton temps. Par exemple, décider que tu feras 2 heures de sport, 1 heure d'écriture et 2 heures à te confronter à des sujets angoissants. Bien sûr, il est tout à fait possible que tu te fasses interrompre en plein milieu de ta session de sport par des policiers policières qui viennent te chercher pour t'emmener en interrogatoire ou en promenade. Qu'à cela ne tienne, retiens combien de temps il te reste à faire et dès que tu reviens, termine ta session et fais les 2 heures de sport prévues. L'idée est de se fixer des objectifs que tu pourras accomplir et profiter du sentiment de valorisation que te donne le fait de les avoir atteints.
D'ailleurs, le sport accélère la fréquence cardiaque et favorise la circulation, les hormones et les neuromédiateurs dans l'ensemble de l'organisme. À certains égards, le sport a des effets chimiques comparables à ceux des antidépresseurs à travers la création de la sérotonine. Et c'est une très bonne manière de se distraire.
Une autre stratégie est de valoriser les endroits où tu résistes avec succès plutôt que de te concentrer sur ceux où tu subis la pression. Tu ne peux pas te déplacer, tu es emprisonné. La police farfouille dans ta vie et dans celle de tes proches. Soit, tu n'y peux rien. Il y a pourtant des choses que tu es en mesure de leur refuser. Ta collaboration à leur travail, par exemple. Refuser de leur livrer les informations qu'ils, elles exigent. Refuser d'accepter leur chantage, leur marchandage. Rester intègre à tes principes est un acte de résistance à valoriser et duquel tu peux tirer beaucoup de force.
Sous-chapitre 4. Lâcher prise.
En parallèle du travail de réappropriation de ton pouvoir de décision, il fait aussi sens d'apprendre à lâcher prise. À partir de ton arrestation, tu ne contrôles plus ce qui se passe et tu n'as plus de moyens d'influencer les événements. Quand va s'arrêter la détention, le nombre d'interrogatoires que tu vas subir, les manipulations des policiers et policières, ce qui se passe dehors. Que tu t'agites ou que tu restes calme, les événements vont suivre leur cours. Toutefois, si tu t'agites, notamment en tentant de te justifier ou de livrer des informations pour t'en sortir, tu risques de commettre des erreurs et d'aggraver la situation. Le mieux est de lâcher prise, de laisser couler le temps, les pressions et le stress sur toi. C'est un sale moment à vivre, mais il finira par passer, et ce qui importe, c'est d'y survivre le mieux possible. Cela signifie de ne pas aggraver ton cas en succombant à la pression et en commettant des erreurs. Voici une technique de lâcher prise facilement utilisable en détention interrogatoire. Si tu remarques que tu n'arrives plus à maintenir tes pensées anxiogènes à distance, arrête ce que tu es en train de faire. Prends une grande inspiration et bloque ta respiration. Reste en apnée autant que possible en énumérant à voix haute et le plus rapidement possible tous les objets qui t'entourent. Tu verras à quel point c'est efficace pour chasser les idées noires.
Chapitre 19. Projection et posture héroïque.
Un des impacts forts et brutal de la répression est son caractère inattendu, son effet de surprise entraînant un bouleversement du quotidien. La majorité du temps, cela te tombe dessus sans que tu y sois préparé. Dans cette thématique, on peut avoir tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La répression peut toucher n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Se projeter mentalement, seul ou avec son entourage, dans une telle situation, peut aider à mieux s'y préparer. Projeter ses peurs, ses faiblesses, réfléchir à ses vulnérabilités. Anticipe les réactions que l'isolement va provoquer chez toi. Imagine les émotions qui pourraient te submerger. Pour se projeter dans une telle situation, tu peux t'inspirer de récits et de témoignages.
1. Résignation et complicité de Marco Kamenich. 2. Mémoire de prison d'un anarchiste d'Alexandre Berkman. 3. Parole d'enfermé. 4. Lettre depuis la maison d'arrêt des femmes de Fleury Mérogis. 5. Sur la route de Madagan, d'Ilar Alinevich. 6. Femmes trans en prison. 7. Parole de Fies, entretien avec Lodelino Iglesias. 8. Un an au pénitencier de Blackwell's Island, d'Emma Goldman. 9. Les frères de Soledad, de George Jackson. 10. Devant mes yeux la mort, de George Jackson. 11. Huye, hombre, huye, chronique de l'enfermement, de Rosetario González. 12. La revue anticarcérale, l'envolée.
Face à la répression étatique, il me paraît très important de ne pas endosser une posture viriliste, où l'on chercherait à se mesurer à la police sur son propre terrain. La police est une institution brutale et violente qui pose un rapport de force asymétrique pour briser l'individu. Par contagion émotionnelle, l'idée peut apparaître qu'à son tour, pour résister, tu dois être forte et héroïque. C'est l'image du ou de la guerrière forte, dénuée de toute faiblesse, qui ne se laisse pas atteindre par les attaques de la police. Jusqu'à ce que tout se craquelle et explose en morceaux, lorsque tu remarques que cette image de toi n'était qu'un fantasme. J'aimerais plutôt encourager une posture résiliente. Reconnaître, accepter et accueillir nos vulnérabilités et faiblesses me semble très important. La posture viriliste qui voit dans toute faiblesse quelque chose de dévalorisant et honteux me paraît idiot. Le fait est que vivre une détention ou un interrogatoire est quelque chose de dur, de désagréable et potentiellement traumatisant. Chaque personne le vivra différemment en fonction de ses sensibilités, mais tout le monde en sera affecté. L'inverse serait très étonnant. À partir de là, plus on connaît ses propres peurs et faiblesses, et mieux on peut les affronter. Le « même pas mal, je suis trop badass » ne te protégera pas, mais aura comme conséquence que tu seras surprise de découvrir tes vulnérabilités au moment même où tu les vis, ce qui n'est vraiment pas une bonne base pour les affronter et les surpasser. Tu peux aussi thématiser avec tes proches les questions liées à la répression. Comment le vivrait-il, elle, si tu étais mise en détention, sans qu'il, elle, ait de possibilité de contact avec toi ? Montrer à soi-même et aux autres qu'on accueille sereinement ses propres vulnérabilités et peurs est le premier pas pour pouvoir les affronter avec confiance et à terme les surpasser.
Chapitre 20. Prendre soin de soi et des autres.
Take care of each other so we can be dangerous together. Slogan queer anarchiste. Vivre un moment de détention ou une confrontation avec la police peut être un moment traumatisant et laisser des séquelles. Une fois dehors, face à la joie d'en avoir fini, on peut facilement sous-estimer les impacts sur le long terme d'un tel événement. Il existe quelques indices de la présence d'un traumatisme. Par exemple, des crises d'angoisse, un sentiment de culpabilité, de honte, des reproches envers toi-même, la perte de joie de vivre, un sentiment de solitude et d'abandon, l'inutilité, d'incapacité à prendre des décisions, une remise en question de l'engagement politique et interhumain, une impression que la vie n'a plus de sens, de valeur ou d'intérêt, et enfin une réapparition de souvenirs traumatisants. Quelquefois, ces réactions surgissent bien longtemps après les événements, quelques semaines ou même des années plus tard. Si tu remarques l'apparition de telles indications, je te conseille de ne pas rester seule, mais de t'entourer d'amis compétentes à qui te confier et de rechercher un ou une thérapeute travaillant sur les traumatismes. Écrire sur les faits et en retracer le déroulement, comment tu l'as ressenti, peut être un bon moyen d'extérioriser les événements. De plus, il peut être utile d'avoir un témoignage complet sous la main pour la suite des événements. Tu pourras, par exemple, en avoir besoin lors du procès. Si une de tes proches vient de vivre un tel moment, enquière-toi de son état et de ses besoins. Rien de mieux, en sortant d'un environnement hostile et violent, que de remarquer que des gens se soucient de toi, de ton état, et sont là pour te soutenir dans cette épreuve.
Sous-chapitre 1, cercle de parole.
Le cercle de parole est un bon outil pour extérioriser ton expérience et prendre conscience que tu n'es pas seul dans ce que tu as vécu. Réunis plusieurs personnes ayant vécu des expériences de détention, interrogatoire, et avec qui tu te sens en confiance. À tour de rôle, chacun chacune peut raconter ce qu'il, elle, désire sur son expérience. Comment cela s'est passé, les peurs et doutes qui sont survenus, les difficultés, le stress ou encore l'impact sur le quotidien à moyen-long terme. Les autres ne posent pas de questions, ne font pas de critiques, ne jugent pas, mais écoutent uniquement. Et cela représente déjà beaucoup. Cela permet de se rendre compte que ce que l'on croyait être seul, à traverser, à ressentir ou à expérimenter, les autres le connaissent aussi. De reconnaître que des sentiments, des expériences qu'on croyait anecdotiques, honteuses ou insignifiantes, résonnent avec celles d'autres personnes. De découvrir qu'en parler, cela peut aider les autres. Dans un cercle, on peut briser les tabous et sortir de la solitude. On peut apprendre à écouter les autres et à s'exprimer, et surtout à politiser nos expériences.
Sous-chapitre 2. Écriture de lettres aux prisonniers-prisonnières.
Soutenir activement les prisonniers-prisonnières est une vieille tradition dans les différents milieux anarchistes. Une pratique courante est l'écriture de lettres. L'isolement social fait partie de la logique carcérale. De manière consciente, les personnes emprisonnées sont coupées du monde extérieur, de leur environnement social, de mouvements de lutte politique. Briser une partie de cet isolement à travers un contact épistolaire peut fournir une aide très concrète pour supporter la vie en prison. Cela peut être en format carte postale ou en s'engageant sur une correspondance à long terme, en envoyant des revues, journaux ou articles imprimés depuis Internet ou en explorant ensemble des jeux de rôle épistolaires. Ce n'est pas toujours facile d'entrer en contact avec des prisonniers-prisonnières. Certains, certaines, tiennent à conserver leur anonymat là où d'autres sont si isolés et coupés du monde qu'ils, elles, n'ont pas de relais extérieur. Il existe néanmoins plusieurs listes de prisonniers-prisonnières ainsi que des guides sur l'écriture de lettres en prison. La force d'une communauté peut se mesurer à la manière dont elle prend soin des plus vulnérables. Les personnes privées de liberté font clairement partie de cette catégorie.
Chapitre 21. Et quand ça se passe mal ?
Rappelons ceci. Lors d'un interrogatoire, la police met une grande énergie pour te manipuler le plus efficacement possible, notamment en jouant sur tes peurs et les endroits où tu es fragile. Tout est fait pour que ce moment se passe mal pour toi. L'idée de cet ouvrage est de t'apporter des connaissances et des outils pour que je puisse te protéger le plus efficacement possible de la pression que représente un interrogatoire. La manipulation fonctionne grâce à des comportements communément acceptés dans notre société. C'est le cas, par exemple, de tous les principes institués par notre code moral. Par exemple, il faut s'entraider, dire la vérité, obéir à l'autorité, répondre quand on nous parle, etc. Elle fonctionne aussi en prenant appui sur les fragilités que tu portes suite au parcours qui t'est propre, de tes expériences passées. Des pièges te sont tendus, et peut-être que tu vas tomber dans certains d'entre eux. Si cela arrive, tu ne devrais en aucun cas te sentir honteux, honteuse d'avoir été la proie et la victime des stratégies de manipulation policière. Si un interrogatoire se passe mal, ne te laisse pas aller à la honte, au remords ou à la culpabilité. Il arrive de craquer, de céder à la pression, d'être brisé. Quel intérêt, dans un environnement déjà hostile, de se fragiliser soi-même en s'auto-flagellant à coups de culpabilité ? Cela ne t'apportera aucune solution dans l'instant présent, mais prendra par contre beaucoup de place mentale et émotionnelle, ce qui aura comme conséquence de t'affaiblir encore plus lors des prochains interrogatoires. Tu pourras ouvrir la porte à ces réflexions avec du recul, lorsque le danger sera écarté. C'est très important de le faire, comme il est important de reconnaître ses erreurs et faiblesses. À ce moment-là, il sera temps de réparer ce qui peut l'être, de comprendre et d'apprendre. Ici aussi, je ne peux que conseiller d'être empathique envers soi-même. Mais il me paraît aussi très important d'être honnête et transparente par rapport à ses faiblesses, envers soi-même, tout comme envers les autres personnes concernées. Si tu es interrogé dans une affaire qui concerne autrui, il faut absolument communiquer de manière transparente sur ce qui a été dit ou non, car cela va impacter toutes les personnes concernées. Le pire scénario qui puisse arriver est qu'une personne craque lors d'un interrogatoire, donne des informations à la police, mais n'ose pas le communiquer aux autres personnes concernées. De cela découle une perte de temps précieux qui aurait pu servir à se protéger des conséquences de ces informations, ainsi qu'une grande rupture de confiance. Foutu pour foutu ? La résignation est un sentiment vers lequel la police tente de t'amener, exactement pour l'effet de renoncement qu'il produit. Si tout est perdu, à quoi bon s'épuiser dans une résistance jugée vaine ? En réalité, rien n'est jamais totalement perdu et tout peut toujours devenir pire.